Créer ou repositionner une marque, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Le numérique et les performances mesurées aux 3 mois imposent un rythme de croisière infernal aux marques. Tout va tellement vite que les marques n'ont pas le temps de se remettre en question au moment où une stratégie de marque solide serait plus importante que jamais. Résultat, plusieurs disparaissent, mortellement atteintes par des déclencheurs externes. Aujourd'hui, au menu de Das Podcast, une pointe de conversation à saveur de pertinence, de différence, de cohérence, d'innovation et, bien entendu, de cohésion. Bon podcast!
Comment vont les marques de nos jours? On est rendu avec tellement de points de contact, avec tellement d'intervenants. À l'époque, M. B, il y avait quand même une équipe qui le faisait. Il y avait un comédien, la fabrique faisait les spots. Vous aviez quand même le contrôle jusqu'à un certain point du message. Alors que maintenant, on va voir dans un déploiement de marque X, on va voir, oui, du travail fait par des agences, des boîtes de design, des boîtes de relations publiques, des gens différents. On va voir aussi, même à l'interne, des gestionnaires de communautés qui font pas forcément partie des équipes marketing a priori. Des fois, on peut voir un bris de signal, de ton, dans les médias sociaux qui appartiennent à ces marques-là. Sens-tu qu'il y a eu un impact dans le numérique sur des marques ou c'est juste moi qui s'invente des affaires?
Pour moi, les marques aujourd'hui sont plus importantes qu'elles l'ont jamais été.
Ben oui, hein?
Plus importantes qu'elles l'ont jamais été. Les marques aujourd'hui ont plus de points de contact, plus de possibilités, plus de latitude pour se créer, s'imprégner dans le quotidien, puis se tailler une place, si on veut, dans le cœur, dans l'esprit, dans l'imaginaire des gens. Ce qui est très difficile, quant à moi, c'est que à cause de la vitesse à laquelle les choses vont, à cause de l'impératif d'avoir des résultats dans 3 mois, les gens n'ont plus de patience. Les gens n'ont plus de patience pour attendre les résultats, ils n'ont plus de patience pour apprendre leur métier, et donc les choses se font à une vitesse incroyable. Mais une marque, je ne dirais pas que ça ne peut pas se faire rapidement, mais ça demande quand même une réflexion en profondeur. Puis c'est là où, malheureusement, des fois chez les agences, des fois chez les clients, souvent entre les deux, on ne prend pas le temps de bien réfléchir à ce qu'on veut que notre marque soit, qu'elle devienne, par où on va passer. Et donc, on pense qu'un repositionnement, ça peut se faire en 3 semaines. Alors, on donne un brief à l'agence. L'agence doit sortir une campagne rapido. Et on se donne pas suffisamment de temps pour bien réfléchir, bien préparer, mesurer le repositionnement, puis mesurer ce que ça prend en interne pour déployer ce repositionnement-là. C'est l'endroit où je crois que les marques sont le plus challengées. Il y a un deuxième grand vecteur, à mon avis, où les marques sont extrêmement challengées, c'est qu'aujourd'hui, le monde n'a plus de frontières. Puis c'est le plus grand changement que le numérique a apporté. Moi, j'ai grandi à une époque où les importations, c'était quelque chose d'exclusif. Quand tu avais quelque chose que tu avais acheté ailleurs, tu ne le retrouvais pas ici dans le marché. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, parce que tu trouves absolument tout ce que tu peux vouloir ou avoir au monde, puis à la limite, tu veux venir par Amazon. Donc, les très grandes marques deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus dominantes, se créent une place immense sur l'échiquier mondial, ce qui fait en sorte que les marques locales qui n'ont pas un vrai avantage concurrentiel sont immensément challengées. On a juste à regarder même Sears. Les marques sont challengées à tous les niveaux. Les consommateurs magasinent sur les prix, magasinent au-delà des frontières, font venir sur Amazon, avec Amazon Prime le lendemain, c'est livré. Alors, c'est, quant à moi, de plus en plus important d'avoir une marque, mais aussi extrêmement difficile. Parce que, un, ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend de la détermination. Puis, deuxièmement, ben, le monde n'a plus de frontières. Alors, c'est sûr que ça a redonné lieu à un phénomène inverse qui est les belles petites marques locales. Il y a de la place pour ces choses-là. On n'a qu'à aller voir, bien sûr, dans les marchés, bien sûr, dans les épiceries. Mais tu sais, si tu vas au marché à Toiteux, même les boutiques de douceur du marché, ils ont ouvert toutes les sections de produits locaux québécois extraordinaires. On n'a qu'à voir même Stéphano Feita qui a lancé sa marque de sauce, qui sont maintenant partout chez Géant. Alors, c'est certain qu'on voit des phénomènes de grandes marques mondiales, puis de marques qui dominent parce qu'ils ont un savoir incroyable. Il y a aussi le phénomène des marques locales. Fait que les marques qui font entre les deux sont vraiment celles qui souffrent, sont vraiment celles qui ont beaucoup de difficultés parce qu'elles sont comme en perte de pertinence, se cherchent, parfois se trouvent un avantage concurrentiel, parfois ça dure, parfois pas. Mais je dirais que de plus en plus, avoir sa marque, c'est incontournable. Incontournable. Que ça soit une petite marque locale, que ça soit une marque qui ait une pertinence chez le consommateur, que ça soit une marque innovante en technologie, que ça soit une grande marque mondiale, l'importance d'avoir sa marque est plus grande que jamais. Plus grande que jamais. Tu ne peux pas juste compter sur le fait que tu vas être distribué en épicerie. Si au bout de 2 mois, 3 mois, tu n'as pas des tours en tablette, tu es mort. C'est vrai dans l'industrie de la cosmétique, c'est vrai dans l'industrie de tout ce qui est rénovation, tout ce qui est pense à n'importe quel rayon en magasin. Si tu n'as pas une marque qui commande, qui crée une préférence, la vie est difficile assez rapidement.
Tu parlais tantôt que tout va extrêmement vite. On voit même des nouvelles catégories arriver qui changent des paradigmes des anciennes. Tu l'as vécu même à l'époque avec Belle. Ça aussi, ça doit être un facteur sur plusieurs marques, particulièrement des marques qui s'accrochent à un produit très spécifique, que tout est bâti alentour, que du jour au lendemain, ils doivent se repositionner autrement, devenir pertinent au-delà d'un produit qui ne l'est peut-être plus, ou d'un service, ou d'une façon de distribuer les choses qui ne le sont peut-être plus?
Bien, je vais simplement dire, les deux grands vecteurs pour créer de la valeur d'une marque, c'est différence et pertinence. Comment es-tu différent? Puis comment, à quel besoin réponds-tu? Et pour quel groupe cible? Après ça, le vecteur qui permet de maintenir l'avantage concurrentiel de la marque dans le temps. C'est l'innovation. Fait que si tu arrêtes d'innover, si tu n'innoves pas, rapidement, tu vas être dépassé. On pense à Apple, c'est tout début. Ouais. Apple, c'était les Mac. Ils étaient immensément différents, immensément innovants. On a juste à penser, c'est eux qui nous ont apporté le WYSIWYG à l'écran, les typographies, la souris, la portabilité, etc. Donc, ils étaient immensément différents et pertinents, mais si Apple n'avait pas innové, ils seraient morts aujourd'hui. Alors, tu sais, ils ont innové avec, ils ont continué d'innover avec, évidemment, sur les Mac, mais ils ont innové avec la musique, le iPod, avec le iTunes, avec les appareils téléphoniques, avec le iPad, avec Apple Watch, etc., etc. Fait que c'est l'innovation à répétition qui fait que ta marque conserve sa pertinence et sa différence. Sinon, rapidement, tu vas être copié, tu vas être dépassé. Fait que les entreprises qui n'innovent pas de façon systémique, puis je ne dis pas systématique, je dis systémique, oui. Autrement dit, l'innovation doit être imprégnée dans l'ensemble des services, des secteurs de l'organisation. L'innovation, ce n'est pas le rôle du service d'innovation, aller innover puis vous nous direz quand vous serez prêt. L'innovation, ça peut venir du service à la clientèle, ça peut venir des produits, ça peut venir des ventes, ça peut venir de partout. Quand on a une innovation, elle doit être embrassée sur l'ensemble des services de l'organisation. Il inclut les finances puis toute la planification financière. Donc, quand tu as un service des finances qui te dit, faut que tu me demandes que ton innovation va être rentable d'ici 3 mois, 6 mois, 12 mois, ben, ton finance, il est en train de tuer l'innovation.
Oui.
Alors, il faut que l'innovation soit embrassée de façon, puis implantée de façon, puis vécue de façon systémique dans l'organisation. Puis à ce moment-là, tu as une vraie organisation innovante. Puis c'est là que ta marque continue de se réinventer à tous les jours. C'est étonnant, mais je trouve que les entreprises qui sont le plus à l'épreuve de tout ça, là, présentement, c'est les entreprises familiales. Les entreprises à propriété familiale, qui ne sont pas sur le marché public,
ouais.
Qui sont la propriété, tu sais, je sais pas quoi, du fondateur ou du fils ou autre. C'est dans ces entreprises-là que tu as le plus le souci de créer de la valeur à long terme, parce qu'ils sont là pour créer de la valeur pour leurs enfants et leurs petits-enfants.
Mm.
Fait que c'est souvent là que je vois les plus belles motivations. T'sais, avant ça, on appelait ça les entreprises, on disait c'est du népotisme. Aujourd'hui, appelle ça comme tu veux, ils grooment leurs enfants, ils leur donnent la place, ils les amènent, ils les forment, ils les coachent, fait que t'as vraiment un système d'apprentis là-dedans. C'est souvent, là, puis il y en a plusieurs, je travaille avec plusieurs de ces entreprises-là, même présentement, c'est là où t'as les plus belles valeurs de gestion pour encourager la pérennité de l'organisation.
Intéressant.
Oui. Et ça va te faire des belles marques tout à l'heure. Ça va te faire là, des entreprises qui ont du coffre, qui ont de la stature, puis qui ont aussi, je dirais, une forme de résistance. Parce que tu as une cohérence dans le changement, tu as une cohérence dans la prise de décision. Tu as souvent le même gars qui est aux commandes pendant 5, 10, 20, 30 ans.
Mm.
Alors que les présidents d'entreprise, ils vont changer beaucoup plus souvent. Alors, tu as vraiment une grande cohérence. Évidemment, si ces entreprises-là sont prêtes à s'adapter au changement, tu es fait à l'œuf. Elles vont mourir, elles vont s'éteindre. Mais à partir du moment où ces entreprises-là ont un peu de vision, c'est souvent une combinaison assez porteuse pour construire des marques solides avec beaucoup de vision, beaucoup de pérennité, beaucoup de solidité, puis de la durée, évidemment.
Et c'est la cohésion qui cimente l'ensemble de ces facteurs-là.
C'est toi qui le dis.
Ben, moi le dire, parce que tu n'arrêtes pas de tourner autour de la cohérence, on va le dire à un moment donné.
Ben, c'est-à-dire que cohérence et cohésion, c'est pas pareil.
Vas-y.
Cohérence, c'est une prise de décision qui, dans le temps, a une logique.
Ouais.
Cohésion, c'est que tout le monde se tient ensemble aujourd'hui. OK? Alors, cohésion, c'est quand tout le monde, tout est arrimé autour d'un plan, de la cohésion. La cohérence, c'est quand tes décisions, dans le temps, sont prises en lien avec ton orientation stratégique. Fait que les deux concepts sont complémentaires, si tu veux. Mais évidemment que moi, dans le cas où on intervient, nous, dans le cas d'une transformation, d'un changement de marque, alors c'est sûr que là, la cohésion est importante. Il faut que tout ton monde se tienne autour de ce changement-là.
Ah oui.
Puis la cohérence, si tu leur as donné un bon plan, ben, ils vont être capables de prendre leurs décisions de manière cohérente dans le temps.
Après 20 ans, sens-tu que la majorité de tes clients ont fait preuve de cohérence?
Écoute, ça c'est une bonne question. Parce que, quant à moi, quand je leur ai donné un bon plan, puis un bon plan, c'est pas le meilleur plan in abstracto. Mais un bon plan, c'est un plan qu'ils sont capables de réaliser.
Mm-hmm.
Quand on leur a donné un bon plan, puis qu'on les a bien outillés, en théorie, ça dure. Alors, on a vu la STM durer.
Mm-hmm.
On a vu Jobboom qu'on a créé il y a 20 ans maintenant, presque. 18 ans, en fait. On a vu Jobboom prendre la place, puis Monster a eu de la difficulté au Québec. Quand on a vu Et puis, Saputo, comment il est repositionné. On a travaillé beaucoup aussi au repositionnement de Natrel. Là, on est en train de faire la Société canadienne du sang qu'on a lancée il y a 2 semaines. C'est un repositionnement fondamental sur toute l'organisation. Eux, je leur souhaite longue vie. J'espère que ça va leur durer au moins 20 ans. Quand les gens viennent chez nous, ils viennent parce qu'il y a des déclencheurs. Exemple, il y a un grand changement dans l'industrie.
Ouais.
Exemple, il y a un changement de loi. Exemple, il y a un nouveau concurrent. Exemple, ils ont eu une fusion, une acquisition. Alors, tu sais, ils viennent parce qu'il y a eu des déclencheurs, parce qu'il y a eu des changements dans la conjoncture.
Mmh. Fait que toi, tous les changements de paradigme, t'es juste bien contente de ça.
Ben, c'est-à-dire que, bien contente, c'est-à-dire que quand il y en a, je surveille parce que les clients viennent. Tu sais, alors, Saputo, ils sont venus il y a 5 ans, on a repositionné la marque Saputo, on a repositionné plusieurs de leurs autres marques. On a effectivement fait un tweak sur la marque Portneuf pour lui donner une plus large pertinence géographique. Mais la vérité, c'est qu'ils voyaient les changements de réglementation s'en venir.
Ouais.
Puis donc, avec tous les
Français qui débarquent.
Les changements au niveau de l'ALENA, au niveau du TPP, au niveau de tout ce qui est Canadian European Trade Agreement. Donc, ça a été un des déclencheurs qui les a fait venir. Pour moi, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est de dire que la réflexion, ça ne se fait pas à vitesse Internet, ça se fait à vitesse humaine. Mais surtout, c'est que du côté du client, il peut vouloir aller vite, mais dans son organisation, le changement, il va se faire à vitesse humaine aussi.
De toute façon.
Oh, ouais, c'est ça.
Et voilà, une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!